CCE, vous informer et vous donner la parole.
Bonjour Chaville, il est 8h, c'est Jonathan Bord qui est à l'animation cette semaine encore, autour de la table, mais je vois quelques habitués. Monique, bonjour.
Bonjour, et bien moi je vais vous raconter le dernier conseil municipal de la mandature.
C'est le tout dernier conseil municipal de la mandature, on vous rappelle que le premier tour des municipales c'est dans moins de 2 semaines. Ensuite, Jean Barbard autour de cette table également.
Bonjour à tous, aujourd'hui on s'intéresse aux coulisses du salon de l'agriculture où les questions des agriculteurs est « mais où va le blé ?»
C'est une excellente question. Et puis Clément pour sa rubrique à table, que nous réserve-t-il ?
Après ils disent « oh la vache !»
Voilà, oh la vache, elle a son masque anti-Covid la vache,
alors,
parce qu'elle n'est
pas venue. Elle n'est pas venue cette année.
Elle n'est pas venue la vache.
Et Clément, as-tu comme ça des exemples agrestes, enfin des sujets
Alors moi j'avais plutôt prévu parler de choux et de lactofermentation en aérobie.
Oh, est-ce que ça veut dire choucroute en termes... Oui. Ah ben voilà.
D'accord, ça veut dire sauerkraut en allemand, alors c'est très bien. C'est déjà la 131e émission de Radio VCE, c'est parti.
Dossier du quotidien avec Monique Couteau.
Bien, il y avait 16 délibérations à l'ordre du jour, dont le rapport d'orientation budgétaire pour 2026. Qu'on ne vote pas, on en prend seulement connaissance.
Oui, ce sont des grandes orientations budgétaires. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce rapport ?
Alors, je ne vais pas détailler ici ce rapport de 28 pages. Il est consultable sur le site de la ville. Le maire commence par évoquer le contexte national et particulièrement le contexte budgétaire. Le budget de Chaville pour 2026 sera de 39,2 millions d'euros en fonctionnement et de 13,8 millions d'euros en investissement. Il précise donc la ventilation des recettes et dépenses prévues dans le cadre de ce budget. Il faut bien avoir en tête qu'un budget communal doit être en équilibre entre recettes et dépenses, tant en fonctionnement qu'en investissement. On peut rappeler que les recettes de la ville proviennent majoritairement des impôts pour 23,3 millions d'euros, des dotations et subventions pour 4,7 millions d'euros, du produit des services de la commune pour 4,3 millions d'euros et du résultat reporté de l'an dernier de 3,3 millions d'euros en fonctionnement et 1,9 million d'euros en investissement. On peut ajouter pour l'investissement les emprunts faits par la ville, 4 millions d'euros. En dépenses de fonctionnement, près de la moitié sont liées aux frais de personnel, c'est-à-dire à celles et ceux qui font vivre le service public municipal, aux charges courantes, aux subventions de la municipalité, au CCAS, Atrium, MJC, associations locales, y compris la participation au budget de GPSO pour les compétences déléguées. Les dépenses en investissement concernent les constructions publiques, les rénovations des bâtiments existants, leur entretien, les mises aux normes de sécurité. Les recettes proviennent de subventions diverses pour 6,7 millions, métropole, région, département, emprunt et virement de la section de fonctionnement pour 1,9 million d'euros et un emprunt pour 1,4 million. J'invite toutes celles et ceux qui veulent en savoir plus à consulter ce rapport.
Oui, alors c'est un petit peu aride à lire, mais c'est toujours intéressant. Alors c'est vrai aussi qu'il y a des vases communicants. Là, on a enfin eu le budget national de l'État. C'est quoi les conséquences du budget national sur les collectivités ?
Oui, alors ce budget national, il vient d'être publié au Journal officiel le 20 février. Après un long parcours dont tout le monde se souvient et une adoption par 49-3, la dernière étape était le passage en Conseil constitutionnel qui en a validé sa quasi-totalité. Pour les collectivités, EPCI, départements et régions, ce sera une ponction cette année de 2 milliards d'euros sur leurs recettes, selon le chiffrage du gouvernement, mais plus de 5 milliards d'euros selon l'AMF. Poursuite de l'augmentation des cotisations de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, DGF non revalorisée, dotation globale de fonctionnement, elle n'a pas été indexée sur l'inflation. Le fonds vert continue de fondre, Son budget s'établit cette année à 840 millions d'euros. Il était de 2,5 milliards d'euros en 2024 et de 1,15 milliards d'euros en 2025. Or, le Fonds vert est destiné à aider les communes sur la prévention et l'adaptation au réchauffement climatique. Sans compter le prélèvement de recettes de 45 millions sur le budget du Centre de formation des agents, introduit par amendement du gouvernement sans aucune concertation. Les ponctions sur les intercommunalités auront aussi des conséquences sur les communes qui les composent.
Et donc il va falloir que les communes s'adaptent à ce budget un petit peu contraint. Qu'est-ce qu'on peut retenir d'autre que les questions budgétaires de ce tout dernier conseil municipal de la mandature ?
Alors, c'est toujours un petit peu particulier, un dernier conseil de mandature. Hein. Il y a comme une petite, je ne sais pas, alors je dirais pas de nostalgie, mais enfin bon, voilà.
De l'émotion.
De l'émotion, des habitudes qui se terminent, des modes de relation qu'on a institués pendant 6 ans, et puis on ne sait pas, du coup, demain, comment sera l'Assemblée.
Et puis peut-être un petit peu de tension aussi, j'imagine.
Il y a aussi ça, tiens, j'avais oublié. En année ordinaire, on vote en mars le budget qui est la déclinaison concrète du rapport d'orientation. Cette année, le vote du budget, ce sera en avril, après les élections. Alors, les délibérations votées, elles concernent la vie ordinaire de la commune, hein. Fixation des taux de contribution directe, identique à 2025, revalorisé de 0,8% en fonction de l'inflation. Ça, c'est ce que dit l'État. Le rapport en matière d'égalité hommes-femmes pour les agents et agentes de la commune et les actions dans ce domaine en direction de la population. Le point sur les effectifs communaux, 355 emplois permanents pourvus et rémunérés à la date du Conseil, qui correspondent en fait à 342,5 temps plein. Adoption du plan de formation des agents, agentes, adoption d'appels d'offres pour les marchés publics, attribution de subventions aux associations. On note aussi l'accord trouvé pour la gestion des interventions sur la voirie, les réseaux, les luminaires entre l'association syndicale du parc Fourchon, GPSO et la ville pour le partage des frais entre cet espace privé et les collectivités. Alors, il y a quelques nouveautés qui peuvent intéresser les Chavilloises et les Chavillois. La création d'une réserve communale de sécurité civile en cas de sinistre sur la base du volontarisme et du bénévolat. On ne connaît toujours pas le prix exact du mégawattheure lié à la géothermie, entre 90 et 110 euros. On attend le montant de la subvention de l'ADEME. Un contrat est conclu avec le concessionnaire d'Alkia pour 30 ans, qui pourra couvrir 13 900 logements. La mise en service est prévue pour 2030. Le projet devrait représenter une économie de 32 500 tonnes de CO2 par an. La commune va faire appel à une société publique locale interdépartementale, Yvelines et Hauts-de-Seine, qui s'appelle Citalia, pour projeter la requalification des créneaux. Et enfin, fermeture des micro-crèches Maradan-Grenouille au 31 mars. Les enfants seront accueillis à la chaloupe, qui doit réouvrir le 1er avril avec 33 berceaux. Le maire a assuré, en réponse à une question des Verts, que les tours du Doisu et les autres ensembles d'HLM seront réhabilités. Des subventions sont assurées. La passerelle sera bien détruite. Il y aura reconstruction de 79 logements. Il y aura rénovation du gymnase Alibi. Abandon, par contre, des logements en bail réel solidaire. Voilà ce qu'on peut dire pour ce dernier conseil municipal.
Le dernier conseil municipal, et donc on verra aussi, l'histoire nous dira s'il y aura continuité ou alternance d'ici à quelques semaines sur toutes ces questions. Merci Monique. Alors j'invite aussi nos auditeurs qui nous écoutent en passant par les réseaux sociaux. Je pense que certains de nos chroniqueurs ont été particulièrement créatifs et audacieux sur leur prise de photos pendant l'exercice. Vous verrez bien sur nos réseaux. Merci. Tout de suite, on passe à la chronique de Jean Barbard.
De tout et de rien avec Jean Barbard.
Mesdames, messieurs, à votre avis, comment on peut être à la fois première puissance agricole d'Europe et avoir des agriculteurs au bord de l'asphyxie? Depuis le 21 février, le salon de l'agriculture a ouvert ses portes. On y caresse des vaches qui ne sont restées au lit pour arrêt maladie, mais on goûte du saucisson ou du fromage, on parle terroir, et en coulisses, ça gronde sévère. entre la loi d'urgence agricole qui peine à voir le jour et l'accord UE-Mercosur qui inquiète les éleveurs, nos bons paysans ont la fourchette coincée en travers de la gorge. Alors pourquoi ça bug ? Contexte rapide. La fameuse loi d'urgence, promise pour calmer la crise agricole, devait simplifier trois choses. L'eau, la prédation, à quoi il faut comprendre le loup, et les contraintes administratives. Problème. Sur le terrain, les revenus restent faméliques. En 2024, certains céréaliers sont tombés sous le seuil du RSA. Oui, vous avez bien entendu. Et près de 80% d'entre eux n'auraient pas survécu sans les aides de la PAC. Alors le chiffre à un bal. À votre avis, quelle part de la valeur produite reste réellement dans la poche des agriculteurs français ?
Oula, pas beaucoup, hein. Voilà, il y a peut-être l'exception de nos AMAP, je dirais Clément, mais oui, c'est
je crois que c'est rien du tout, hein, j'avais entendu, moi.
C'est moitié moins que nos voisins. Oui. On parle de 23% à peine. Ouais, la France produit beaucoup, on est le premier producteur européen, mais on garde peu. Nos voisins italiens ou espagnols captent presque le double. On a donc un modèle de volume gavé d'intrants importés, donc entendez engrais et énergie, où la valeur s'évapore entre les fournisseurs et la grande distribution. Résultat, l'agriculteur travaille plus, gagne moins et dépend de l'État. Et puis il y a l'accord UE-Mercosur. 99 000 tonnes de bœuf sud-américain bientôt sur le marché européen. Des normes environnementales plus souples, des coûts plus bas. Et une question simple, comment demander à un éleveur français de respecter des règles strictes et le mettre en concurrence avec un modèle qui ne joue pas selon les mêmes règles ?
Ça.
Ont-ils raison d'être en colère, nos agriculteurs ?
Oui.
Économiquement, oui. Le revenu agricole est l'un des plus instables et les plus dépendants des aides publiques. Moralement aussi, on leur demande d'être à la fois compétitif, écologique, souverain et pas cher. Alors comment faire autrement ? Peut-être en arrêtant de penser quantité et en pensant valeur. Monter en gamme, transformer localement, contractualiser avec des prix planchers indexés sur les coûts réels, ou aller encore un peu plus loin, expérimenter une sécurité sociale de l'alimentation pour garantir à la fois un revenu digne et un accès à une alimentation de qualité. Et pour ça, je vous renvoie à la chronique de Monique Coteau du 16 février 2026.
Ah voilà, j'allais le dire.
Super.
Enfin, au fond, la question à se poser n'est pas agricole. Elle est politique, et pas que politique nationale. Donc pour finir, si le salon de l'agriculture est une belle vitrine, derrière les stands et les médailles, c'est un modèle entier qui vacille. Et si on ne règle pas la question du revenu, la prochaine fois, il n'y aura peut-être plus personne pour tenir le stand.
Oui, c'est très juste. Merci beaucoup Jean Barbard.
On
se retrouve la semaine prochaine.
Avec plaisir.
Mais tout de suite, on va dans la directe continuité, on va passer à table, je crois.
À la soucroute.
Voilà.
À table avec Clément Chassin.
Alors, j'avais parlé de pickles la semaine dernière. Alors, voilà la suite logique. La choucroute. Voilà, je continue à faire des bocaux avec mes légumes en ce moment. Donc, la choucroute, qu'est-ce que c'est ? C'est un truc alsacien avec plein de charcuterie bien grasse qu'on déguste en costume traditionnel dans les brasseries à touristes de Colmar. Hop là ! Ou deux, c'est le processus de lactofermentation anaérobie du chou.
C'est ça, je crois.
Tu crois que c'est ça ?
C'est très décevant, mais je crois que c'est la deuxième.
C'est dommage. Donc, effectivement, je vais arrêter de faire des accents alsaciens.
Arrête de faire la saucisse.
Oui. Et donc, on va parler de la lactofermentation du chou. Voilà, ce qui peut aussi se faire, on peut aussi lactofermenter d'autres légumes, mais bon, il faut que j'en garde un petit peu pour d'autres chroniques.
Ah oui ?
Voilà. Pour l'explication scientifique de la transformation du glucose, C6H12O6, et de l'adénosine diphosphate...
À tes souhaits.
Voilà, je voulais chercher sur Wikipédia, il y a des schémas qui sont magnifiques. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce processus, ça permet d'utiliser certains ferments et certaines bactéries qui ont des propriétés très intéressantes. Voilà, alors moi, je vais renvoyer à ma propre chronique sur le pain, au levain, puisque le levain, c'est aussi une forme de lactofermentation. Voilà, et donc, ça permet de dégrader les protéines, les glucides, tout ça. Et donc, quand on dégrade toutes ces molécules un peu complexes, ça les rend plus...
Digestes,
bingo. Mm-hmm. Voilà, et en plus, donc non seulement c'est plus digeste, et en plus, ça produit des acides lactiques qui agissent sur la production de sucs digestifs. Voilà, et donc, effectivement, je vous parlais de choux, et ben, cet ensemble de donc dégradation plus de production de sucs digestifs, tout ça, ça permet d'éviter ce qu'on va appeler gentiment les petits tracas digestifs.
Voilà. C'est bien d'en parler, oui, comme, voilà. Comme parfois. Donc.
Toujours un petit peu de poésie.
Mmh. On revoit à la chronique sur le topinambour.
Voilà. Donc c'est vachement bien pour ça. En plus, ça amène des vitamines, des minéraux, des enzymes, tout ça. Déjà, le chou, c'est génial parce que ça pousse en hiver et... Ça tombe bien, dans le chou, vous avez des vitamines, des minéraux, tout ce dont...
Et des fois, il y a des bébés, on m'a dit.
Et des bébés, des fois,
pas toujours.
Il ne faut pas les faire cuire. Hein.
Faut non. Pas les faire cuire, non, non. Moi, j'ai déjà trouvé des bébés escargots dans mes choux, mais parce que c'est du bio. voilà, donc ça pousse en hiver. Et justement, ce qui est formidable, c'est que ça nous amène en hiver tout ce dont on a besoin en hiver, des vitamines, des sels minéraux, tout ça. Et là, grâce à la lactofermentation, on va même avoir encore plus de vitamine B, de vitamine C qu'avant la fermentation. On a plus du double de vitamine C. C'est quand même bien, fou. Donc c'est vraiment génial. En plus, pourquoi on fait de la choucroute? Parce que c'est quand même un truc qui remonte à des années et des années. C'est assez ancien, c'est un procédé ancestral qu'on avait un petit peu oublié avec l'invention de la conserve, hein, la boîte de conserve. On y revient... à ce procédé ancestral qui est facile, qui est peu coûteux, ancestral, donc il peut se faire avec des moyens qu'on avait déjà au Moyen-Âge, on pouvait le faire. Et ben parce que à un moment, la teneur en acide lactique arrive à un équilibre, et du coup, ça bouge plus. Et comme ça bouge plus, ça se conserve. Voilà, ouais. Ça se conserve sans avoir besoin de congeler, de tout ça. Pas besoin d'un congélateur qui va prendre de l'électricité nucléaire, tout ça. Donc voilà, donc c'est vachement bien. En plus, bon, alors c'est bien parce que voilà, il y a plein de bonnes raisons scientifiques, tout ça. C'est bien aussi parce que ça modifie un petit peu le goût. Je vous ai dit, ça casse les molécules, tout ça. Du coup, vous avez ce petit goût un petit peu acidulé, qui est assez agréable. Et donc, on met dans des bocaux, tout ça, on fait lactofermenter. On peut faire lactofermenter en mettant des petites épices, en mettant des petites graines avec, en mettant. Moi, j'avoue, j'ai un goût particulier pour les graines de cumin, mais bon, faut que j'arrête avec ça, quoi. Mais, voilà, on peut se faire plaisir, on peut se faire sa recette à son goût. Voilà, c'est quand même aussi ça important, du plaisir. Voilà, donc, rapidement, je vous explique comment on fait, quand même.
Oui.
Donc, pour faire de la choucroute, vous coupez votre chou en lanières fines, vous mettez dans un grand récipient.
Un chou vert.
N'importe quel chou. Alors, normalement, effectivement, on se dit, il faut le chou paumé, plutôt blanc, on enlève les grosses feuilles pour garder les feuilles. Honnêtement, ça marche avec n'importe quel chou. Comme je disais, okay. Ça peut marcher avec n'importe quel légume, quasiment aussi. Donc, c'est.
Voilà. Enfin, évite les choux de Bruxelles, parce que c'est un peu loin.
Ouais, la coupe en lanière, c'est long.
Ouais.
Voilà. Mais, non, donc, effectivement, typiquement, la choucroute traditionnelle, la sienne, tout ça, avec la enfin voilà,
tout ce qu'il faut.
C'est avec le chou paumé, voilà, mais bon, là on va le faire avec ce que tu as sous la main. Tu mets dans un grand récipient, tu ajoutes du sel, à peu près 10 grammes de gros sel pour 1 kg de chou, quoi. C'est vraiment pas beaucoup, éventuellement des épices. Et tu mélanges dans un grand récipient, voilà, tu mélanges pour que ça se mélange bien, tu laisses reposer un quart d'heure, tu reprends ton récipient, tu remélanges un petit peu, et là tu mets dans un bocal. En appuyant bien dessus, hein, tu tapes dessus, n'hésite pas. Puisque je disais, c'est de la lactofermentation anaérobie. Anaérobie, ça veut dire
Sans air.
Formidable.
Ouais, pour les gens qui ne manquent pas d'air.
Voilà. Rien à voir avec l'aérobie, c'est juste qu'il n'y a pas d'air. Donc, effectivement, il faut chasser l'air. Donc, on appuie bien dessus pour chasser l'air. Et du coup, vous avez tout le jus qui va remonter. Hein, puisque vous l'avez laissé un quart d'heure, là, ça marine un petit peu. Donc, le jus du chou va remonter. Normalement, donc à un moment, à force de tasser, donc vous avez le jus qui va couvrir vos lanières de chou. Si ça ne couvre pas, on peut éventuellement rajouter un peu d'eau. Évitons l'eau du robinet parce qu'elle est pleine de chlore. Donc, comme là, effectivement, le but, c'est d'avoir des bonnes bactéries. Donc, il ne faut pas tuer les bactéries. Donc, on va éviter le chlore. Mais voilà. Mais normalement, il n'y a peut-être même pas besoin si vous avez suffisamment de jus dans votre chou. Vous le fermez bien, votre bocal. Et là, attention, un truc hyper compliqué. Vous le foutez au fond d'un placard, vous l'oubliez pendant 3 semaines.
D'accord. Ça, c'est possible, sans problème.
Voilà, ça, c'est une recette de cuisine hyper compliquée. Hein. Voilà. Et au bout de 3 semaines,
c'est bon.
C'est bon. Enfin, à partir de au bout de 3 semaines. Ouais. Après, vous pouvez le garder des années, puisque comme je disais, en fait, quand l'acide lactique atteint son niveau d'équilibre, ça se stabilise et ça ne bouge plus. Et sinon, voilà, au bout de 3 semaines, ça a fait sa lactofermentation. Vous pouvez l'ouvrir, le manger comme ça, tout ça. Ça se garde. Alors, une fois que le bocal est ouvert, ça va se garder quelques jours au frigo. Voilà. Et on n'est pas obligé, comme je disais, de faire de la choucroute avec des
jambonneaux.
Des jambonneaux, des saucisses, de ceci, de cela, tout ça. Non, mais on peut. Par exemple, tu peux ouvrir ton bocal, tu prends ton chou mariné froid, avec un petit peu de comté, des petits morceaux de pommes, et tu peux te faire une petite entrée, une petite salade.
Que les Alsaciens restent à l'antenne.
Oui, oui, oui. On salue nos amis d'Outre-Vosges.
Voilà. Mais la choucroute, ce n'est pas que
le truc vrai.
Gras et chargé et tout ça. Oui, ça peut aussi être une petite salade légère, tout ça, et qui permet quand même d'avoir tous les avantages du chou mariné, enfin du chou pas mariné, lacto-fermenté, donc voilà, avec, comme je disais, plus de vitamines, tout ça, plus digeste, enfin voilà.
Dans pas longtemps, bon, ben... Monique va nous demander si on peut rajouter du calva dedans.
Ah, je n'ai pas... J'ai rien dit, moi.
On te prête des intentions. Merci beaucoup, en tout cas, Clément, pour ces recettes détaillées. Effectivement, c'est désespérément simple, en fait. Pourquoi est-ce qu'on n'en fait pas plus? On ne sait pas. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine. C'était la 131e émission de Radio VCE. C'était Jonathan Bord avec toute l'équipe. À la semaine prochaine.